Un homme très riche ne s'était pas fait que des amis durant sa vie. De nombreuses menaces étaient régulièrement proférées à son encontre. C'est ainsi que notre homme décida d'améliorer tout ce qui touchait à sa sécurité. Augmentation du nombre de gardes du corps, système d'alarme renforcé, vidéosurveillance de dernière génération, et j'en passe. Et dans cette même démarche, notre homme fit venir à la maison un armurier qui, en plus de lui proposer diverses armes et divers gadgets, lui vanta généreusement tous les avantages d'un nouveau gilet pare-balles, d'une technologie révolutionnaire qui le rendait impénétrable et très fin à la fois, facile donc à porter en toutes circonstances. Intéressé par cette nouveauté, mais méfiant de nature, notre millionnaire prit une des armes à feu que l'armurier venait de lui vendre et dit à celui-ci : « Si ce gilet pare-balles est si extraordinaire que ça, alors je peux vous tirer dessus et il ne se passera rien. Vous ne serez pas blessé, je vais donc le faire et si le test est concluant, je l'achète pour moi et pour tous mes hommes. » L'armurier regarda le millionnaire avec sidération, se mit à bafouiller quelques mots inintelligibles, puis il prit ses jambes à son cou et s'enfuit pour ne plus jamais revenir. Il y a des choses dans la vie dont la fiabilité et l'authenticité ne sont jamais aussi bien démontrées que par un test, que par une mise à l'épreuve. C'est ainsi que la plupart de nos produits de consommation sont testés avant d'être mis sur le marché. La Bible aussi parle de tests, de mise à l'épreuve. Nous trouvons quelques versets, quelques passages, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, où il est fait mention de tests, de mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve de quoi ? Mise à l'épreuve par qui ? Mise à l'épreuve par Dieu, de la foi de son peuple, de la foi de ses enfants. Dieu éprouve parfois la foi de ses enfants. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quel est le sens de cette affirmation ? Est-il théologiquement juste de dire que Dieu éprouve la foi de ses enfants ? Si Dieu agit effectivement ainsi, pourquoi le fait-il ? Dans quel but ? Devons-nous craindre que notre foi soit mise à l'épreuve ? Quand nous lisons les textes bibliques qui évoquent notre sujet, nous devons constater que l'Écriture n'élude absolument pas le sujet. Elle en parle, et elle en parle à de nombreuses reprises, en tout cas à plusieurs reprises. Et je poserai donc comme a priori ce matin à notre réflexion que Dieu éprouve parfois la foi de ses enfants. J'ai choisi comme support à la méditation de ce matin le texte bien connu de Genèse 22. C'est dans ce passage que Dieu va demander à Abraham de sacrifier Isaac, son fils, le fils de la promesse. Alors je vous invite à suivre avec moi la lecture du texte, ce soit dans vos Bibles, soit à la projection. Je lis au début du chapitre 22. Alors pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Si tu peux peut-être juste relancer. Je lis à partir du verset 1 et je lirai jusqu'au verset 18. On attend juste que la projection arrive. Non, ça, ce n'est pas le texte. Ou alors on n'a pas la même Bible. désolée pour l'enregistrement, mais il y aura un blanc. Je commence à lire et puis on rattrapera le texte dès qu'il sera prêt. Genèse chapitre 22, verset 1. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et Isaac son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Vous, restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur Isaac, son fils, et il prit lui-même le feu et le couteau. Puis ils continuèrent à marcher ensemble tous les deux. Alors Isaac dit à son père, « Père, il répondit, « Oui, mon fils. » Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Que Dieu voit lui-même quel animal il aura pour l'holocauste, mon fils. » Et ils continuèrent à marcher ensemble, tous les deux. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et déposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. » Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Yiré, Yahvé ou l'Éternel voit. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il dit, « Je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. » J'aimerais commencer par considérer quelques éléments du récit et du contexte. Abraham n'est plus tout à fait jeune au moment de notre texte. Quel âge a-t-il à ce moment-là? Le texte ne le dit pas. Par contre, nous savons qu'il avait 100 ans à la naissance d'Isaac. Et que forcément, quelques années se sont passées suffisamment pour qu'Isaac soit en âge de faire ce long voyage de 3 jours au pays de Morija à la demande de Dieu. Un mot justement sur la demande de Dieu. Comment comprendre une telle demande? C'est à mon sens, d'un point de vue humain, je dis bien d'un point de vue humain, complètement incompréhensible, pour au moins 2 raisons. La première a trait à la personne de Dieu, à sa nature, à la révélation de sa personne. Comment le Dieu qu'Abraham avait appris à connaître comme le Dieu juste et bon pouvait-il lui demander de sacrifier un être humain, qui plus est son fils unique? Et cela soulève bien évidemment la question des sacrifices humains. Nous y reviendrons un peu plus loin. La deuxième raison qui fait que cette demande est incompréhensible à vue humaine est qu'Isaac est le fils de la promesse. Il est celui que Dieu avait promis à Abraham et à Sarah et qu'ils avaient attendu pendant tant d'années. Alors que les années passaient, Abraham et Sarah ont dû croire en dépit du bon sens, que Dieu tiendrait ses promesses, alors même qu'ils étaient très avancés en âge. Comment Dieu pouvait-il vouloir reprendre celui qui était porteur de cette promesse, des promesses de la descendance promise, des promesses de bénédiction pour toutes les familles de la terre, des promesses de cette descendance qui hériterait le pays promis? Et je pense qu'Abraham n'a pas dû comprendre grand-chose à ce que Dieu lui demandait. Je pense, même si le texte n'en dit rien, qu'Abraham a été profondément troublé, dérangé par la demande de Dieu. Et pourtant, la seule chose que rapporte le texte, c'est l'obéissance d'Abraham. Abraham se leva de bon matin. Peut-être faut-il voir dans la mention de bon matin l'indication qu'Abraham a passé une très mauvaise nuit, peut-être une nuit blanche. Je préfère voir ici la promptitude d'Abraham à obéir. Abraham n'a pas tergiversé, il n'a pas remis à plus tard l'obéissance à ce commandement de Dieu. Abraham se leva de bon matin, dit le texte. Et Abraham laisse ici l'exemple précieux de la foi qui ne s'arrête pas de croire quand elle ne comprend plus ce qui se passe. De la foi qui ne s'arrête pas de croire quand elle ne comprend plus les voies de Dieu. Le voyage va durer 3 jours. 3 longs jours de marche. 3 longs jours de marche avec rien d'autre à faire pour Abraham que de penser à ce sacrifice que Dieu lui avait demandé. 3 longs jours avec 1001 occasions de rebrousser chemin. Enfin, le 3e jour, Abraham aperçoit au loin le lieu désigné par Dieu. Et il donne alors cet ordre à ses serviteurs, cette phrase extraordinaire où il dit « Nous reviendrons ». Nous reviendrons. C'est le verset 5. Abraham dit à ses serviteurs « Vous restez ici avec l'âne ». Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. Comment comprendre cette affirmation? Comment comprendre l'assurance de cette affirmation? Qu'avait compris Abraham des intentions de Dieu? Il est difficile d'être catégorique. Mais un texte du Nouveau Testament lève un petit peu le voile, en tout cas un coin du voile, et nous laisse entendre qu'Abraham croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter Isaac des morts. C'est le texte d'Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait accueilli les promesses et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance ». Il, c'est-à-dire Abraham, estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une parabole. Certainement que la compréhension de la résurrection qu'avait Abraham n'était pas celle que nous avons aujourd'hui. C'est même une certitude. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'Abraham avait une pleine confiance en Dieu. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il avait confiance qu'Isaac était et serait encore le vecteur des promesses que Dieu lui avait faites. Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. Il y aurait bien des choses à dire, mais ce n'est pas mon sujet ce matin, donc je continue. Et Isaac, dans tout ça, qu'a-t-il compris ? À la lumière du verset 7 et de la question qu'il pose à son père, nous comprenons qu'il n'avait pas compris grand-chose, en tout cas à ce moment-là. Alors Isaac dit à son père, Abraham son père, « Père !» Il répondit, « Oui, mon fils !» Isaac reprit, « Le feu et le bois sont là, mais où est l'animal pour l'holocauste ?» Le moment venu, il comprendra. Le moment venu, il comprendra et il ne résistera pas. Il se soumettra à son père. Et ce texte nous offre, je crois, la plus belle des analogies que nous pouvons trouver dans l'Écriture avec le sacrifice de Christ, de Jésus. Lui aussi consentit librement. Lui aussi le Fils unique, qui se soumet à son Père et qui va jusqu'à la mort. Abraham et Isaac sont maintenant arrivés au lieu du sacrifice. Ils bâtissent l'autel, ils déposent le bois dessus, et sans autre, le texte nous dit qu'Abraham ligota son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Combien Abraham a dû espérer jusqu'au bout que Dieu dirait quelque chose d'autre. Et combien le silence de Dieu a dû être pesant pour Abraham. Mais rien. Rien sinon le silence. Rien jusqu'au dernier moment. Rien jusqu'au moment où il lève le couteau. Rien jusqu'au moment de la délivrance. Que faisons-nous quand Dieu est silencieux dans notre vie? Est-ce que nous nous arrêtons d'obéir parce que nous n'entendons plus Dieu? Parce que nous ne le comprenons plus? Parce que nous avons l'impression que la voie dans laquelle nous nous sommes engagés est une impasse, est une erreur? Nous arrêtons-nous de croire quand nous n'entendons plus Dieu ou quand nous pensons ne plus entendre Dieu? Nous arrêtons-nous de lui faire confiance? Abraham nous laisse ici l'exemple de la foi qui persévère jusqu'au bout, même quand Dieu est silencieux, même quand nous n'arrivons plus à entendre sa voix. Mais Dieu est intervenu, in extremis, il est vrai, mais suffisamment à temps pour empêcher Abraham de commettre l'irréparable. Et c'est ainsi que Dieu va pourvoir un animal pour le sacrifice, un animal de substitution. C'est ainsi que Dieu confirme que son intention n'avait jamais été le sacrifice d'Isaac, mais la mise à l'épreuve de la foi d'Abraham. Il est dit au verset 12, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Et Dieu va confirmer alors, je ne vais pas les relire, mais c'est la fin du passage, les promesses faites à Abraham. Parce que tu as fait cela, verset 16, parce que tu ne m'as pas, je te donnerai, je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Venons-en à notre sujet. Nous avons posé le cadre. La mise à l'épreuve de la foi. J'aimerais bien insister pour commencer sur le fait que c'est bien de cela dont il s'agit dès le départ dans notre texte. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le premier verset. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. L'intention de Dieu n'a jamais été qu'Isaac meure sur cet autel. L'intention de Dieu était d'éprouver la foi d'Abraham. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu est contre les sacrifices humains. Le verset par lequel commence ce récit est sans ambiguïté. Dieu est en train de tester la foi de celui qui sera appelé dans le Nouveau Testament le Père des croyants. Bien évidemment, Abraham n'en savait rien. S'il l'avait su, il n'y avait pas de... Voilà, ça ne servait à rien. Il n'en savait rien et ça, bien évidemment, ça complique pour lui la tâche. Ça rend l'obéissance difficile. Le Dieu qu'il avait fait quitter Ur en Chaldée, avec toutes ses divinités, toutes plus cruelles et sanguinaires les unes que les autres. Le Dieu qu'il avait fait quitter ce contexte-là, serait-il aussi cruel que ces dieux-là? Pourquoi Abraham a-t-il accepté l'inacceptable sans broncher? C'est un mystère. En tout cas, l'Écriture n'en dit rien. Ça reste un peu mystérieux. Pourquoi n'a-t-il pas intercédé pour son fils comme il a intercédé pour les habitants de Sodome et Gomorre? C'est un peu mystérieux aussi. Peut-être. Peut-être qu'un élément de réponse se trouve dans ce texte d'Hébreux 11 qui nous dit qu'Abraham croyait que Dieu avait le pouvoir de ressusciter les morts. J'aimerais, avant de donner les raisons avancées par l'Écriture de la mise à l'épreuve de la foi des croyants, baliser un peu plus, baliser le sens de ce dont nous parlons. Qu'est-ce que la mise à l'épreuve de la foi? Attention à ne pas voir derrière chaque épreuve de la vie une mise à l'épreuve de notre foi. S'il y a des leçons à apprendre de tout ce que nous vivons, et donc aussi des difficultés que nous traversons, il n'est pas juste de voir la main de Dieu qui nous teste derrière chaque petit pépin de la vie, les petits et les gros. Il n'y a pas de fondement théologique pour cela. L'épreuve de la foi du croyant est une circonstance particulière, permise par Dieu, à un moment donné, dans le but de tester la foi de son enfant. C'est pourquoi nous ne parlons pas ici, dans l'absolu, des difficultés inhérentes à la vie humaine, et en particulier celles qui sont les conséquences du monde sans Dieu dans lequel nous vivons. C'est pourquoi nous ne parlons pas ici, dans l'absolu, des difficultés que Satan peut mettre sur le chemin des croyants, dans le seul but de les éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous ne parlons pas ici dans l'absolu des difficultés qui sont engendrées par notre propre péché, par notre propre incrédulité. Une fois que j'ai dit ça, je précise qu'il peut arriver que Dieu, dans sa souveraineté, se serve des choses dont je viens de parler. C'est possible. Rien ne l'empêche de se servir de cela aussi pour tester notre foi. Il est celui qui fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors que reste-t-il après ce balisage? il reste, je crois, de rares occasions où l'épreuve que nous vivons peut être considérée, alors nous n'en sommes peut-être pas toujours conscients, même sans doute, mais peut être considérée comme une mise à l'épreuve de la foi. Et c'est donc l'adjectif « rare » ou l'adverbe « parfois » que j'utiliserai pour parler de la mise à l'épreuve de la foi. Dieu nous teste parfois, dans de rares occasions. Nous arrivons maintenant aux raisons qui font que Dieu agit parfois ainsi avec ses enfants. Pourquoi Dieu teste-t-il parfois, rarement, la foi de ses enfants? Il est essentiel de comprendre ici que la mise à l'épreuve de notre foi a toujours, je dis bien toujours, la visée de notre bien. Toujours la visée de notre bien. Jamais celle de notre malheur. Il faut toujours bien faire la distinction entre l'épreuve de la foi et la tentation. Parce que la Bible affirme que Dieu ne tente personne. Satan le fait. 1 Corinthiens 7 nous est dit que Satan nous tente en vue de nous faire chuter. Mais Dieu, lui, ne tente personne. Alors il arrive que nous soyons tentés dans l'épreuve. Mais comme le dit alors Jacques au début de son épître, c'est alors notre propre convoitise. Notre propre convoitise qui nous attire et qui nous séduit. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne tente personne. Et quand il éprouve la foi de son enfant, c'est toujours pour son bien. C'est toujours pour son affermissement. Et on peut noter ici que ce qui est quand même un test de grande envergure, hein, il faut le dire, c'est quand même pas rien ce que Dieu fait subir ici à Abraham. Il ne le lui fait pas subir au début quand il le fait quitter Ur en Chaldée. C'est à la fin, après des années et des années de marche avec le Seigneur. À ce moment-là, Abraham était en mesure de passer ce test-là. Dieu sait ce qu'il fait et il ne va pas nous mettre dans des situations impossibles si nous ne sommes pas, quand nous ne sommes pas en mesure d'y faire face. Pourquoi Dieu permet-il l'épreuve de notre foi? Je répondrai pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Et c'est ce que nous comprenons à partir de ce verset 12. Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et la question qu'il faut se poser ici est la suivante. Dieu a-t-il besoin de la mise à l'épreuve de notre foi pour savoir ce qui est dans notre cœur? La réponse est bien évidemment non. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Il n'a pas besoin d'une mise à l'épreuve pour savoir comment nous allons réagir. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais maintenant que tu crains Dieu. Ma compréhension des choses, c'est que je pense que Dieu savait, mais il fallait que la volonté de l'homme, il fallait que le libre arbitre d'Abraham puisse s'exprimer. Abraham, pas plus que nous ne le sommes, n'était une marionnette dans les mains de Dieu, obligé de faire sans autre tout ce que Dieu aurait décrété dans l'éternité. Abraham avait le choix d'accepter, mais aussi le choix de refuser. Il a accepté. Il a accepté parce qu'il craignait Dieu et il n'a pas refusé de donner ce qu'il avait de plus cher. La révélation de ce qu'il y a dans le cœur est donc plus pour nous, pour l'homme, pour le croyant, que pour Dieu qui le sait déjà. L'épreuve de la foi nous fait grandir. Elle fait grandir notre foi. Elle nous donne l'occasion de voir Dieu à l'œuvre dans notre propre vie. Elle donne aussi l'occasion à ceux qui nous entourent de voir la crédibilité de la foi chrétienne. Elle nous donne l'occasion de lui prouver notre amour, notre attachement, de mettre notre foi en œuvre. Et c'est ainsi, je crois, que la mise à l'épreuve de la foi va purifier, et c'est une autre raison qu'on peut ajouter, va purifier notre foi de tout ce qui l'encombre, de tout ce qui l'empêche de s'exprimer telle qu'elle devrait s'exprimer. Et la purification de la foi, c'est la raison que l'apôtre Pierre évoque quand il parle de ces choses. Et ces versets viennent à la suite des versets que Sigère a lus en première partie. « Ainsi vous êtes transportés d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, attristés par diverses épreuves, afin que la qualité éprouvée de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur à la révélation de Jésus-Christ. » Dieu désire débarrasser notre foi de toutes ces scories, pour rester dans l'image ici de l'or qui est purifié. Il veut la purifier de tout ce qui l'entrave. Mais qu'est-ce qui peut bien entraver la foi ? Le légalisme ? La propre justice, les mérites, l'orgueil, la religiosité, l'impatience, l'immaturité, le doute, l'arrogance, et nous pourrions compléter encore cette liste. Dieu désire rendre notre foi plus forte, plus pure. Et c'est ainsi que la foi éprouvée dans les mots de ce texte de l'apôtre Pierre devient plus précieuse, dit-il, que l'or périssable. Et ce constat amène à la troisième raison que j'aimerais souligner pour la mise à l'épreuve de notre foi, qui est la gloire de Dieu. J'aurais pu commencer par celle-là. Ça aurait été même chronologiquement ce qu'il aurait fallu faire. La gloire de Dieu. Dieu tire gloire de l'obéissance de ses enfants. Dieu tire gloire de notre soumission, de notre consécration, des sacrifices que nous faisons et des sacrifices que nous sommes prêts à faire pour lui. Il tire gloire de notre fidélité, et en particulier de notre fidélité dans l'adversité. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Et à la révélation de Jésus, dit l'apôtre Pierre, quand Jésus-Christ reviendra, Dieu sera loué, glorifié, honoré par la foi éprouvée de ses enfants. J'aimerais terminer avec une leçon importante. Après avoir offert le bélier de substitution en sacrifice, Abraham va donner un nom à ce lieu où il se trouve. Il va donner le nom d'Adonai Jireh. Jireh, Jireh, c'est littéralement Dieu voit, dans le sens de Dieu pourvoit. Il voit et il donne ce qu'il faut. Alors oui, il peut arriver que Dieu teste la foi de ses enfants, qu'il teste notre foi, votre foi. Devons-nous craindre cela ? Non, car il est Adonai Jireh. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui, avec l'épreuve, donne toujours une issue. Celui qui ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces et qui, avec l'épreuve, ménage toujours une issue. Pourquoi, dit ce fameux texte de Corinthiens, pour que vous puissiez la supporter. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il est Adonai Jireh. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi toujours une issue pour que vous puissiez la supporter. C'est extraordinaire. Qu'il est beau ce verset. Dieu est Adonai Jireh. Il est celui sur qui nous pouvons toujours compter. Et en particulier quand nous sommes dans l'épreuve. Parce que nous savons que Dieu pourvoira toujours une issue pour que nous puissions la supporter. Alors je sais ce que vous pensez. Est-ce que ça veut dire que Dieu délivre toujours? Il y en avait qui pensaient ça, n'est-ce pas? Et la réponse est non. Non, Dieu ne délivre pas toujours son enfant. Il y a des chrétiens qui meurent à cause de leur foi. Il y a des chrétiens qui meurent du cancer et d'autres maladies. Il y en a d'autres qui sont guéris. Il y en a d'autres qui sont épargnés et sauvés in extremis dans les pays où ils sont persécutés. Mais la réalité, c'est que Dieu ne délivre pas toujours. La réalité, c'est que Dieu ne guérit pas toujours. Alors comment est-ce qu'on arrive à garder tout ça dans une cohérence? La réponse, elle est là dans notre texte. Parce que quand Dieu ne le fait pas, si Dieu choisit de ne pas guérir, si Dieu choisit de ne pas sauver, alors il donnera la grâce de supporter jusqu'à la fin. L'épreuve. Il donnera toujours une issue, soit par la délivrance, soit par sa grâce qui permet de supporter jusqu'au bout. Ce que Dieu désire, c'est notre attachement indéfectible. Et ça, quelles que soient les circonstances. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur les exigences de Jésus que nous trouvons dans les évangiles. Les exigences à le suivre, hein. Se renier, etc., tout abandonner, placer le Seigneur avant père, mère, etc. Il y a beaucoup de textes dans les évangiles qui sont exactement dans la même veine. C'est une chose d'obéir à Dieu et de lui faire confiance quand tout va bien. Nous l'avons tous expérimenté. C'est une chose d'obéir à Dieu et de lui faire confiance quand tout s'enchaîne parfaitement dans notre vie. C'est logique, tout va bien. Mais qu'en est-il des moments, et nous les traversons tous, où les choses vont de travers, où nous perdons le contrôle de notre vie. Nous aimons tellement contrôler les choses. Et puis il arrive des moments où nous perdons le contrôle. Devons-nous, à ce moment-là, arrêter de faire confiance à Dieu? Devons-nous, à ce moment-là, arrêter de lui obéir? Qu'en est-il des moments où nous ne comprenons pas les voies de Dieu? Qu'en est-il des moments où obéir à Dieu nous met dans une difficulté? Nous met dans une impasse à vue humaine? Devons-nous arrêter de faire confiance à Dieu dans ces moments-là? Chers frères et sœurs, ce que Dieu veut, c'est notre vie à 100%, sans que nous ne retenions quoi que ce soit. Ça, c'est l'objectif. Notre vie à 100% dans la joie et dans la peine. Notre vie à 100% dans la facilité et dans l'épreuve, dans la difficulté. Notre vie à 100%, même dans l'épreuve, même quand nous ne comprenons plus, même quand notre foi est rudement mise à l'épreuve. Que Dieu nous accorde la grâce de toujours lui faire confiance, de toujours le suivre, de toujours croire qu'il est Adonai Jireh, celui qui pourvoira en toute occasion, soit par la délivrance, soit par la grâce pour aller jusqu'au bout. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence. Pour prolonger le message que nous venons d'entendre et en introduction à la Sainte Cène que nous allons vivre ensemble dans quelques instants, je vous invite à chanter un cantique.